Hello Rudy.
Salut Christophe, comment ça va?
Ça va super bien, et toi?
Ça va. Alors bienvenue pour ton podcast de janvier.
Ah ben, c'est bien que, je sais pas, ça fait le quatrième, non, peut-être qu'on fait maintenant ensemble?
Cinquième, peut-être même.
Cinquième, ben écoute, c'est bien qu'il y ait des gens qui écoutent ça, et apparemment qu'il y ait des personnes que ça intéresse, c'est cool.
Bon, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que devient Christophe Carion en ce moment, qu'on le voit pas beaucoup?
Eh ben, qu'est-ce que je deviens? Je bosse sur beaucoup de nouveaux projets qui arrivent dans le courant de l'année. J'anime mes stages et formations un petit peu partout. Je passe du temps à m'entraîner parce que c'est bien de faire des choses pour les gens, etc. Mais c'est bien aussi de passer du temps pour soi. Voilà, de manière à pouvoir proposer un Christophe Cario 100% neuf et nouveau au printemps, par exemple. Voilà.
Là, justement, tu m'as dit qu'il allait y avoir la sortie de ton livre sur les coups de pied bientôt.
Absolument, Total Kick Training arrivera en février. On a eu des petits soucis liés au monde impitoyable de l'édition. Mais voilà, Total Kick Training sortira courant février. Entre mi-février et fin février, mais en février, ça c'est sûr.
Donc, ce sera juste un livre ou juste un DVD?
Alors, il y aura un livre accompagné d'un double DVD. Le livre servira à exposer un peu les bases théoriques derrière la méthode. L'objectif du livre, c'est vraiment d'essayer d'aider les gens à apprendre ou à retravailler leur technique de jambe, quel que soit le style pratiqué. Mais tout en diminuant les risques de blessures, notamment au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau de la colonne vertébrale, parce que je me suis aperçu, notamment avec tout le travail que je fais depuis des années sur la correction de la posture, ben que les coups de pied, c'était assez traumatisant justement pour l'ensemble du corps, et particulièrement pour les articulations que je viens de citer. Donc, après avoir passé 20 ans à donner des coups de pompe dans tous les sens, eh ben voilà, je me suis moi-même, on va dire, auto-corrigé et rééduqué avec les méthodes du livre. Et après, j'ai essayé de simplifier un petit peu tout ça, de manière à le rendre plus facile, plus digeste pour tous les pratiquants, quel que soit le style. Voilà.
Donc là, d'ici mi-février, on devrait avoir...
C'est ça, le coffret livre plus double DVD. Le DVD est un super support au bouquin afin de vraiment bien comprendre la logique des mouvements, etc. Et bien apprendre à se positionner. Et puis, voilà. Et puis, encore une fois, le livre apporte les bases théoriques à la méthode.
Donc, très bien. Et donc, d'autres projets pour plus tard qui sont pour l'instant top secret.
Absolument, voilà Rudy, toujours pareil, à cause du monde impitoyable dans lequel nous vivons, il faut garder le secret jusqu'à la dernière seconde, quoi.
Donc, nous allons démarrer les questions toujours aussi intéressantes.
Ouais.
Donc, il y en a une qui concerne beaucoup de monde, je pense. Comment améliorer la résistance à la position debout? Alors, je ne sais pas si je lis la question en entier. La question peut paraître débile, mais malgré la pratique régulière des programmes mis au point par Christophe, je constate que je ne peux pas tenir 15 minutes debout sans avoir mal au dos, dans une file d'attente par exemple. Ce que je trouve assez pathétique pour un sportif. Pour rappel, donc Alain est de posture 2 et il a une hernie discale.
Ouais.
Y a-t-il quelque chose de spécifique à faire, à part continuer les exercices correctifs et les automassages? Donc là, c'est des questions que... c'est vrai que pareil, tu n'as pas au bout de 15 minutes, mais genre au bout d'une heure, une heure et demie, j'ai l'impression que le dos...
Ouais,
on est beaucoup, même par où il se disait un peu plus bas. Tu vois, au bout d'un moment, tu vois, il fait la vaisselle et d'un coup, il congestionne des lombaires ou...
Alors, c'est intéressant c'est très intéressant comme question à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est qu'effectivement, le programme d'un corps sans douleur, par exemple, c'est un programme de renforcement de la musculature profonde et de rééducation, en fait, du fonctionnement optimal des articulations. Donc, le principe des exercices, c'est qu'ils s'adressent à une musculature qui entoure vraiment les articulations et qui est une musculature qui doit être endurante. Donc ça, c'est le premier point. Donc, forcément, qui parle de musculature posturale parle vraiment d'une musculature qui doit être endurante. Donc, si par exemple, comme c'est souvent le cas, on fait des programmes de musculation qui s'adressent à une musculature qui est beaucoup plus superficielle, beaucoup plus explosive, et c'est pour ça qu'on développe du volume musculaire. On crée un véritable déséquilibre entre l'endurance nécessaire à la musculature posturale, la musculature profonde, et le développement musculaire et l'endurance et la force en fait de la musculature plus superficielle. Donc dans le cas par exemple d'Alain ou de Fabrice qui sont des sportifs et qui font de la muscu, en fait, encore une fois, c'est une stratégie du corps qui utilise de manière prioritaire la musculature auquel il a le plus vite accès et celle qu'il utilise de manière plus consciente, c'est-à-dire la musculature plus superficielle, la musculature visible, les muscles qu'on voit à l'extérieur. Et donc, ça témoigne encore une fois d'une lacune de cette musculature profonde. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que la majorité des exercices d'un corps sans douleur sont des exercices qui sont faits en position allongée, qui sont faits en position au sol. Pourquoi ? Parce que ce sont des positions qui sont assez faciles à prendre, qui s'adaptent environ à tous les individus. Mais le problème, c'est que le renforcement qu'on obtient dans ces positions est un renforcement qui est spécifique. À savoir que lorsque vous allez renforcer, par exemple, des muscles debout, vous n'allez pas forcément toucher la musculature de la même manière, vous n'allez pas enclencher les mêmes programmes moteurs que si vous faisiez le même type de mouvement, par exemple, allongé sur le dos. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, cette musculature profonde, elle est spécifique au mouvement que vous renforcez. C'est pour ça que dans les prochains mois, je vais développer pas mal de choses pour expliquer et surtout pour apporter des solutions aux gens, non seulement pour faire évoluer les programmes qu'il y a dans un corps sans douleur, et pour les rendre un petit peu spécifiques à différentes situations. Alors, pour éviter que les gens ils aient des problèmes, on va dire, d'endurance musculaire au niveau des muscles posturaux, en position debout, en position assise, ou dans des positions de travail spécifiques, etc. Donc, pour faire simple, ce qui est normal, c'est que si vous faites les programmes d'un corps sans douleur en position allongée, vous développez en fait votre musculature profonde, mais elle n'est pas forcément très endurante dans d'autres positions que la position allongée. Est-ce que ça veut dire que les programmes d'un corps sans douleur ne sont pas des bons programmes ou pas un bon programme à suivre ? Non, puisque la base d'un corps sans douleur, c'est vraiment de travailler, encore une fois, sur la rééducation du système nerveux, la rééducation, en fait, du mouvement dans sa forme la plus basique, la plus simple. Par la suite, ce qui va être intéressant, c'est justement de développer des stratégies où on va entretenir, on va dire, le meilleur mouvement, la meilleure qualité de mouvement possible, et on va lui rajouter une forme d'endurance. Donc ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais grosso modo, ce que Fabrice ou ce que Alain doivent garder en tête, c'est que si au bout de 15 minutes, ils ont mal au dos en faisant la vaisselle, eh ben, au bout de 10 minutes, il faut faire un break dans sa vaisselle, faire par exemple des exercices de mobilisation pour relâcher un petit peu, remettre à zéro les tensions corporelles, et puis reprendre sa vaisselle. Et c'est exactement les mêmes conseils que je donne pour les gens qui passent de longues heures assises, toujours dans la même position. C'est environ toutes les demi-heures, toutes les 45 minutes, essayer de bouger pour remettre à zéro les tensions musculaires autour des articulations et repartir en fait sur un schéma postural un petit peu plus neutre. Je sais pas si tu suis, Rudy, ou si...
Si, je suis, mais j'allais faire part de mon expérience.
Alors vas-y, je t'en prie.
Parce que moi, pareil, je suis posture où je suis vachement cambré. Et donc, oui. Donc c'est pas au bout de 15 minutes que j'ai mal au dos, mais au bout d'une heure ou une heure et demie, je commence à avoir le dos, je sens vachement raide.
Oui.
Et donc, en fait, il suffit que je m'étire le psoas.
Oui.
Donc, je m'étire des deux côtés le psoas, et d'un coup, pouf, bah, ça va un peu mieux, quoi.
Oui.
Tout de suite, j'ai plus mal au dos, c'est comme si j'étais pas resté debout. En fait, ça rejoint ce que tu dis, en fait, ne pas rester tout le temps...
Dans la même position.
Voilà, ouais, c'est ça. Si je reste tout le temps debout sans... Si au bout d'un moment j'ai mal au dos et que je fais pas les étirements du psoas ou du droit antérieur pour me libérer un peu le dos, bah c'est de pire en pire.
Ben parce que une fois de plus, ta posture dominante c'est une posture de type 1, je le développe dans un corps sans douleur. Et donc ta stratégie à toi c'est d'utiliser en fait ton psoas, tes lombaires, en fait, pour maintenir en fait ta colonne et ton bassin en équilibre. Donc forcément, ben, ces muscles-là, qui sont des muscles, on va dire, plutôt toniques et plutôt puissants, qui sont des muscles du mouvement et pas forcément des muscles impliqués trop dans la posture, ils vont rapidement en fait s'asphyxier. Et donc effectivement, ben, si tu bouges, si tu les étires, si tu les mobilises, si tu les relâches de manière régulière, ben, immédiatement tu sens une amélioration des tensions qui se sont installées. En fait, c'est assez simple, hein, les histoires de correction posturale.
Ouais, non, mais ça, en fait, c'était pour corroborer ce que tu disais, c'est juste qu'au bout d'un moment, en fait, je reprends la mauvaise posture et puis.
Ouais, c'est ça.
Paf, en fait, comme j'ai pas assez développé l'installation
profonde.
Profonde, voilà. Donc, d'un coup, je reprends la mauvaise posture et normal que ça me fasse mal.
Ouais.
Donc, c'est ce qui se passe un peu pour Alain et pour Fabrice.
Ben Fabrice, pour l'avoir vu au stage d'été, effectivement, il est très cambré. Et puis on avait vu ensemble qu'il y avait un gros problème de contrôle justement au niveau postural.
De toute façon, Fabrice, il s'est tordu. Hein.
Ouais, complètement. Donc, mais bon, ça m'étonne pas en fait qu'il dise ça. Donc voilà, il y a des choses à faire. Après, dans un podcast, c'est toujours un peu compliqué de le décrire. Mais globalement, dès qu'une tension s'installe, il faut bouger, changer de position, mobiliser, étirer ce qui semble être trop tendu, de manière à remettre à zéro les tensions, pour garder des choses simples et des conseils simples pour ce podcast.
Donc voilà, donc on attend
les retours.
Voilà, en espérant qu'il n'y ait plus de mal de dos. Donc Alain continue avec une question plus personnelle. Mm-hmm. Alors il pratique tous les jours la méditation en position César.
Seiza, la position Seiza, une position où on est assis en fait, on est à genoux et on est assis les fesses sur les talons. C'est la position que on voit dans les films où il y a des samouraïs, une position très pratiquée notamment par les Japonais et tout ça. Et donc la question d'Alain c'est...
Ils doivent fréquemment faire des pauses en raison d'extrêmes douleurs aux paravertébraux. Et ce malgré la pratique régulière d'automassage.
Mmh.
Ça m'ennuie, car l'inconfort constant complique un peu la pratique elle-même. Faut-il persévérer ou y a-t-il quelque chose d'autre à faire pour pallier à ce problème?
Alors, bon, déjà, ça nous ramène à ce qu'on vient de dire, à savoir que Alain, il a certainement des problèmes posturaux liés à sa pratique de la musculation. La stratégie que son corps utilise et qu'il connaît le mieux, c'est utiliser prioritairement les muscles, on va dire, superficiels, vu que il a l'habitude de les solliciter en musculation. Donc en fait, le cerveau, il utilise en fait des muscles qui sont beaucoup plus faciles pour lui à atteindre, beaucoup plus conscients en fait. C'est pour ça que je parle souvent de trouver un juste équilibre entre le renforcement musculaire profond et le renforcement musculaire, on va dire, plus superficiel. Sinon, c'est normal d'avoir toujours des tensions, on va dire, musculaires, parce que vous utilisez en permanence la même stratégie, c'est-à-dire une stratégie superficielle par rapport à une stratégie plus profonde au niveau de la stabilisation des articulations. Donc, pour Alain, déjà, donc il y a ce premier problème qui intervient. Donc, c'est encore un problème d'endurance musculaire, de la musculature profonde. Deuxième problème, c'est que tous les gens qui pratiquent la méditation, surtout dans des positions maintenues longtemps, c'est le travail justement de méditation, il est associé justement à un lâcher prise corporelle, justement parce que dans le zen, qui est une pratique méditative japonaise, on sait que quand on reste une heure dans la même position, on a des tensions dans les genoux, on a des problèmes au niveau des ligaments du genou, on a des tensions dans les muscles paravertébraux, ça fait partie de la pratique. Moi perso, je cautionne pas ça, même si c'est pour aller vers un développement plus ésotérique ou plus spirituel, je trouve que ça devrait pas se faire au détriment du corps. C'est pour ça que je suis pas pour certaines pratiques, par exemple de yoga, dans lesquelles on reste en position longtemps avec les genoux en tailleur, en position de lotus, parce qu'au bout d'un moment, ça crée des distensions ligamentaires notamment, qui vont être préjudiciables à long terme. Donc pour Alain, moi je dirais, fais des phases de méditation plus courtes, relâche en fait les tensions et puis reprend ta phase méditatoire. Voilà.
Tout simplement.
Ben, c'est vrai que...
C'est toujours le signal à la douleur, en fait. Dès que t'as vraiment trop mal, faut que tu t'arrêtes, quoi. C'est pas...
Ben, exactement. Ou alors, tu vas jusqu'au bout de ta démarche et tu acceptes que tu aies des douleurs dans le dos qui soient associées à cette pratique-là. Donc ça, éventuellement, ça peut être un point de vue, hein. Par exemple, il y a plein de pratiquants de yoga qui acceptent d'avoir mal aux genoux parce qu'il faut dépasser la douleur physique pour se développer mentalement, spirituellement. Moi, je trouve que c'est une vaste connerie, mais peut-être que je suis pas encore suffisamment développé spirituellement ou émotionnellement pour comprendre ça. Mais je préfère garder mes genoux et ma colonne jusqu'à la fin de mes jours. Plutôt que de développer un certain état d'esprit lié à l'état méditatif, quoi. Voilà, c'est un point de vue.
Mais c'est marrant, je voulais pas donner de point de vue pour pas dire que c'était pourri, mais...
Ah, j'ai pas dit que c'était pourri, Rudy. J'ai juste dit que moi, je préférais, si tu veux, garder mon intégrité corporelle, peut-être au détriment d'une certaine évolution spirituelle, que je pourrais, à mon sens, trouver dans d'autres formes. Par exemple, si on fait une parenthèse très rapide... c'est pas parce que il y a des gens qui ont dit qu'il fallait méditer en position seiza, c'est-à-dire en position à genoux, qu'on doit forcément rester dans cette position-là. Tu peux très bien rester debout, par exemple dans le tai chi, c'est ce qu'on fait. Le tai chi, c'est une pratique de méditation un petit peu et une pratique corporelle dans laquelle en fait on médite debout et en mouvement. Donc je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire.
Ouais, non, mais c'est juste que là, se bousiller. Ça me paraissait...
Voilà. Mais bon, Alain, c'est bien aussi la méditation, Alain.
Alors, une question qui va nous faire plaisir. Moi, je trouve, elle me fait rire aussi. Alors, de l'eau. Alors, après plusieurs visites chez l'ostéopathe, il y a une vertèbre dorsale qui ne cesse de bouger.
Oui.
Alors, elle pivote ou se décale de l'axe de la colonne.
Oui.
Alors, il m'a diagnostiqué un manque de puissance... entre guillemets, au niveau des muscles qui maintiennent les vertèbres, et m'a conseillé de faire du relevé de buste sur vent à l'envers en statique.
Oui.
Je retiens de rigoler. Pour renforcer ces muscles et permettre à la vertèbre de rester bien en place.
Oui.
Alors, est-ce que la pratique de sculpter vos abdos, 3-4 fois par semaine, permet ce renforcement au niveau des muscles qui maintiennent les vertèbres? Est-ce que certains automassages et étirements doivent être favorisés ou au contraire évités?
Excellente question. Donc, première des choses, oui, sculpter vos abdos va t'aider, parce que c'est pour ça que j'ai créé le livre, justement pour essayer de récupérer un équilibre entre musculature profonde et musculature superficielle. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, on peut avoir une certaine instabilité vertébrale, mais fondamentalement, il faut bien garder en tête que les vertèbres ne bougent pas. C'est-à-dire qu'une vertèbre, elle a des micro-mouvements, elle peut légèrement bouger latéralement, pivoter, etc. Mais elle peut pas trop se déplacer tel qu'on peut le concevoir en ostéopathie, etc. Pour la bonne et simple raison que si elle se déplace trop, ben soit on abîme les nerfs, soit tout simplement on abîme la moelle épinière, et donc là on meurt, ou on est tétraplégique. Donc, faut bien garder en tête ça. Donc, effectivement, qu'on ait des problèmes d'instabilité à certains étages de la colonne, ça c'est un fait avéré. Et il faut le faire avec des mouvements qui sont doux, progressifs et non pas agressifs, comme par exemple un relevé de chaise en isométrie. Parce que là, du coup, on est à nouveau dans cette fameuse stratégie dont je parle depuis le début du podcast. Cette stratégie de renforcer la musculature superficielle, qui est une musculature très puissante, au détriment des petits muscles, les petits muscles intervertébraux qui, en fait, à certains étages chez l'eau, sont peut-être pas suffisamment toniques, etc. Donc c'est pour ça que phase 1 de sculpter vos abdos va t'aider dans cette direction-là, et ensuite utiliser la phase 2, c'est-à-dire la phase un peu plus spécifique, au type de posture, de sculpter vos abdos pour pouvoir faire évoluer ton programme et éviter encore une fois ça. Alors, deuxième question, est-ce qu'il doit éviter certains types d'automassage? Oui. Si tu as une forme d'instabilité chronique au niveau de certains étages de la colonne, il faut éviter, par exemple, de travailler avec un rouleau, notamment en position allongée sur le dos, parce qu'effectivement, tu risques de maintenir cet état d'instabilité chronique. Donc, à ce titre, je te suggère plutôt l'utilisation soit d'un bâton de massage, qui te permettra de mettre moins de pression sur l'étage ou autour de l'étage vertébral qui est concerné, ou éventuellement d'utiliser ton rouleau, mais contre un mur, c'est-à-dire de manière à éviter de mettre trop de pression à l'endroit qui pose problème. Voilà, donc tu fais le même automassage que la version allongée sur le dos en appui sur le rouleau, mais tu positionnes ton rouleau contre le mur. Voilà.
On t'a oublié un conseil quand même, changer d'ostéo.
Et peut-être, non, pas forcément, Rudy, peut-être que le...
Ah, mais le conseil...
Peut-être que le gars est un bon ostéopathe dans son domaine, mais que la musculation, le renforcement musculaire, c'est pas sa spécialité. Donc peut-être qu'il a un conseil qui n'était pas forcément le meilleur, mais peut-être que ses qualités d'ostéopathe ne sont pas à revoir.
Ah, t'es gentil quand même.
Moi, je suis pas gentil, je suis moi, je suis pour la paix dans le monde.
Voilà. Alors, deuxième question. Je pratique le programme Build Like a Badass de DeFranco, deux fois par semaine.
D'accord.
J'ai enlevé la séance jambes à cause de ce problème au niveau de la colonne.
Oui.
Pas de squat ni de soulevé de terre. Uniquement des séances du haut du corps.
Oui.
Et j'ai décidé d'ajouter une séance de musculation athlétique avec deux fiches de balistique plus deux fiches de densité croissante dans la même séance.
Oui.
Est-ce que je peux quand même pratiquer des exercices comme le squat jump ou les fentes sautées?
Oui.
Pendant ces séances, vaut-il mieux attendre d'avoir renforcé les muscles paravertébraux pour reprendre le travail du bas du corps?
Je dirais que tu peux commencer à intégrer des exercices pour le bas du corps, des exercices au poids de corps de musculation athlétique. Par contre, peut-être choisir une progression, notamment pour les jambes, un peu plus progressive, à savoir au lieu de deux fiches de balistique, je reformule. Dans musculation athlétique, on commence par le haut du corps et on finit par un mouvement de jambes. Donc dans ton cas, en fait, l'eau, peut-être que c'est mieux de commencer avec le mouvement de jambes, de manière à être le plus frais possible pour garder le meilleur contrôle possible au niveau de ton dos et éviter ce problème d'instabilité. Et peut-être dans un deuxième temps de séance, choisir des temps de densité croissante pas trop longs, au lieu de passer à des densités qui sont de 15 minutes par exemple, rester sur des 8 ou 10 minutes, de manière encore une fois à essayer de maintenir la meilleure posture possible, surtout pour ta pratique au niveau des jambes, et pour éviter encore une fois que sur des mouvements du haut du corps un peu dynamique ou explosif, tu te positionnes mal, ce qui mettrait encore une fois des tensions à l'étage vertébral qui pose problème, quoi. Faut pas oublier que les mouvements de jambes ont une influence sur la colonne vertébrale, mais également que les mouvements du haut du corps ont forcément une influence plus importante sur la colonne vertébrale, surtout dès qu'on utilise ses bras, puisque les bras sont plus près de l'étage thoracique, par exemple, que les jambes.
Donc, je pense que ça répond à la question de l'eau.
Oui.
Alors, une autre question intéressante aussi. Y a-t-il une spécificité de l'effort cardiovasculaire? Alors, il s'explique. Est-ce que le développement du cardio en pratiquant la course à pied est directement transférable à celui utilisé quand on nage, quand on effectue la musculation et inversement? Le cardio développé en densité croissante, par exemple, grâce aux fiches de musculation athlétique, se transfère-t-il sur la course à pied ou la nage? Sera-t-on aussi performant sur le plan cardiovasculaire dans les différentes disciplines malgré la pratique d'une seule?
Alors, c'est une bonne question. Alors, Déjà, il faut voir de manière assez large le travail cardiovasculaire. Si tu fais, par exemple, un travail cardiovasculaire en course à pied, c'est principalement les jambes qui produisent en fait la demande cardiovasculaire. Le reste du corps servant à contrebalancer le mouvement des jambes, mais n'intervient pas énormément en fait dans le travail, dans la pompe cardiaque. Si on compare donc la course à pied, le travail cardio de la course à pied au travail cardio qu'on peut avoir en natation, qui est un sport porté dans un environnement fluide et qu'on pratique à l'horizontale avec tout le corps, à ce moment-là, les demandes cardiovasculaires sont pas du tout les mêmes. D'ailleurs, en plus, il y a des problèmes aussi de respiration quand on nage qui sont pas du tout les mêmes que quand on court. Donc non, effectivement, il y a une vraie différence entre un travail de course à pied pour améliorer, par exemple, le cardio d'un nageur et le cardio développé en natation pour améliorer le cardio d'un marathonien, etc. Donc c'est vraiment deux aspects différents. Par contre, il y a des demandes cardiovasculaires qui sont similaires, à savoir que le cœur bat, le cœur pompe et envoie du sang. Les poumons absorbent de l'oxygène et recrachent du dioxyde de carbone. Donc effectivement, il y a quand même des transferts qui sont possibles, mais par contre, il faut bien différencier l'activité cardiovasculaire et pulmonaire qu'on va pouvoir renforcer, qu'on va pouvoir faire progresser en utilisant une activité pour améliorer une autre activité. Et par contre, il y a quand même des demandes très spécifiques qui sont liées à la gestuelle en fait. Donc encore une fois, le mouvement de natation, c'est pas du tout le même que le mouvement de course à pied. Donc, si je veux être bon en course à pied, je dois courir. La natation, par exemple, cardio développé en natation, va me permettre de délester un petit peu mes articulations pour éviter, par exemple, d'avoir des périostites. Je sais que c'est une question qui va arriver après. Le cardio développé en natation va m'apprendre peut-être à mieux respirer ou à développer les muscles du diaphragme, par exemple, d'une manière différente qu'en course à pied. Donc, il y a des transferts de cet ordre-là. Mais pour être un bon coureur, il faudra courir, et pour être un bon nageur, il faudra nager. Alors, la question qu'il pose ensuite, c'est est-ce que le cardio développé par musculation athlétique et la densité croissante va me servir en natation ou en course ? Alors, c'est la même réponse, à savoir que dans la mesure où, en densité croissante, je fais un travail de musculation très intense et qu'en même temps, je travaille l'ensemble du corps, c'est-à-dire le haut et le bas du corps, je vais avoir une énorme demande au niveau cardiovasculaire et pulmonaire. Donc, je vais créer des améliorations, je vais améliorer mon système de transport d'oxygène, mon système de transport de repompage et d'envoi du sang dans l'organisme, mais ça ne sera qu'un travail, on va dire, de global, généraliste. Si, par exemple, je veux être bon en course à pied, il faudra quand même, par exemple, que je fasse des séances spécifiques de course, et si je veux être bon en nage, il faudra quand même que je fasse de la natation à côté. C'était ça le sens de la question, Rudy ?
Pour moi, c'était ça.
Eh ben, écoute, si c'est pas ça, Lo, tu nous reposes la question pour un prochain podcast.
Donc là, pareil, une super question aussi. Donc, toujours dans ce système de transfert, la pratique des fiches balistiques et densité croissante de musculation athlétique une fois par semaine, oui, permettent-elles une amélioration en musculation avec haltères ? Par exemple, est-ce que la pratique des pompes claquées va permettre une amélioration du développé couché, mm-hmm, celle des tractions explosives, une amélioration des tractions classiques ?
Oui, absolument, dans les deux cas. Pourquoi ? Ben parce qu'on utilise des modes de contraction qui sont différents, mais avec une logique de mouvement qui est à peu près la même. Les pompes se rapprochent en fait du mouvement de poussée qu'on retrouve en développé couché. En développé couché, on est sur un mouvement qu'on appelle en chaîne ouverte, c'est-à-dire je pousse ma charge vers le vide. Si vous mettiez par exemple une charge très légère avec un partenaire intelligent pour rattraper la barre, vous pourriez la pousser dans le vide. Et dans les pompes explosives, en fait, je pars d'une position en chaîne fermée, c'est-à-dire j'ai mes deux pieds et mes deux mains posés au sol, d'accord, et je vais développer une énorme force, une grosse explosivité pour pouvoir décoller du sol. Donc on est dans la même logique de mouvement. Développé couché, j'ai pas forcément un énorme gainage qui est demandé, vu que je suis en appui sur le banc. En revanche, sur les pompes explosives, j'ai beaucoup plus de demandes de gainage, de co-contraction de l'ensemble du corps pour me maintenir dans une bonne posture dans les airs et pouvoir bien générer de la puissance. Donc effectivement, les pompes explosives, les pompes claquées vont améliorer mon mouvement de développé couché et la force de mon développé couché. D'ailleurs, c'est très souvent, on combine les deux. Hein, quand on veut progresser en force, on peut par exemple faire quelques pompes claquées et immédiatement après faire par exemple une ou deux reps de développé couché très lourd, parce qu'on sait que la pliométrie active le système nerveux et favorise en fait la meilleure contraction, une meilleure contraction musculaire. Donc c'est une technique qui est vieille dans la préparation physique maintenant, et c'est la même logique au niveau des tractions sautées et des tractions normales ou du tirage vertical, voilà.
Et donc en plus on peut faire le parallèle avec l'entraînement un peu à la Westside.
Oui.
Seulement maintenant ils font des séances, enfin un moment quoi, ils font des séances de vitesse exprès en fait explosive pour améliorer leur maxi de développé couché lors de leur séance lourde en fait.
Bah complètement.
Ils font tous des en fait soit de la pliométrie. Des sauts, des pompes claquées, soit il faut même de la vitesse, donc avec des élastiques, justement pour gagner en vitesse, parce que c'est un paramètre en fait avant qui n'était pas du tout travaillé,
ouais.
Et on a vu que ça pouvait justement s'améliorer, on pouvait être plus explosif.
Ben, complètement, donc de toute façon, j'avais déjà dit dans un podcast au sujet de, je crois que c'était une discussion sur le CrossFit, finalement on s'aperçoit que toutes les grosses méthodes, tous les gros systèmes, en fait, s'inspirent tous les uns des autres. Pourquoi ? Parce que on va tous dans une logique, en fait, dans le même sens, à savoir éviter de créer trop de déséquilibre à cause d'une pratique qui est trop spécifique, et en même temps, essayer de développer tous les paramètres de la performance pour être plus endurant. Dave Tate, qui est que certaines personnes de Superphysique doivent connaître, qui est un fervent pratiquant de la méthode Westside, il explique lui-même que maintenant il fait énormément de corrections posturales, il fait énormément de travail, on va dire, au poids de corps. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qu'il a beaucoup négligé pendant des années, et qu'il s'aperçoit que bien à plus de 50 ans, je crois qu'il a, il lui reste encore 20 ans ou 30 ans à vivre, et que s'il veut continuer à soulever des charges parce que c'est sa passion et qu'il aime ça et que ça le fait vibrer, il a intérêt à prendre soin aussi de son corps. Voilà. Donc la finalité, effectivement, Rudy, c'est comme tu l'as dit, que toutes les gros systèmes d'entraînement regardent un petit peu ce que font les autres, s'inspirent de ce que font les autres, de manière à essayer de faire évoluer leur propre pratique, quoi.
Pour une question qui m'intéresse aussi, parce que je ne le fais pas tout le temps. Les automassages pré- et post-entraînement sont-ils indispensables ? Peut-on attendre le lendemain de la séance pour pratiquer la séance d'automassage plus en profondeur ?
Alors, moi, ce que je suggère, surtout pour des pratiquants de musculation, c'est plutôt de privilégier justement une séance d'automassage après la séance d'entraînement. Avant, si on n'a pas le temps, c'est pas gravissime. C'est mieux, pourquoi ? Parce que ça permet en fait de préparer les tissus, remettre à zéro un petit peu les tensions corporelles et donc justement de disposer d'un système articulaire mieux aligné avant sa séance de muscu, donc de favoriser de meilleurs mouvements. Mais si on la fait après, par exemple, après sa séance, les automassages, ils vont vraiment favoriser la récupération, ils vont relâcher en fait le tonus musculaire, donc favoriser une meilleure circulation sanguine. Si j'ai une meilleure circulation sanguine, je rappelle que mes nutriments et tous les acides aminés, la créatine que je prends vont arriver plus vite aux cellules qui viennent d'être travaillées. Donc les automassages vont vraiment permettre une récupération accélérée. D'ailleurs, je conseille, si on n'a pas le temps, de faire plus des automassages après une séance de muscu et éventuellement de faire des étirements que le lendemain de la séance. Voilà.
Donc, avant l'entraînement, si on n'a pas le temps,
c'est pas gravissime.
Mais après l'entraînement, c'est mieux de les faire après l'entraînement que le lendemain.
Absolument. Voilà. Okay. Et encore une fois, on n'est pas obligé de tous les faire. On peut très bien se focaliser sur les muscles qui restent les plus congestionnés ou sur les zones à problème qu'on sait récurrentes. On a parlé de des problèmes de dos d'Alain ou de Fabrice. Si par exemple ils font une séance de jambes, ben, il est fondamental pour eux de faire par exemple les muscles paravertébraux et les fessiers par exemple après leur séance de jambes, de manière vraiment à relâcher tous ces muscles du dos et les muscles autour des hanches, de façon à ben, éviter trop de tension, trop de douleur le lendemain par exemple.
Alors une question marrante. Pour lutter contre les effets négatifs sur la posture, la position assise et les longues heures passées devant l'ordinateur sur le bureau, oui. J'utilise maintenant l'ordinateur en position allongée sur le dos, sur le lit ou le canapé, oui. Ce qui limite les minutes passées en position assise à l'heure des repas et pendant les trajets des voitures. Est-ce que cela réduit les effets négatifs et permet de lutter contre ceux de la position assise d'une certaine façon?
Oui, d'une certaine manière, on peut voir les choses comme ça. Maintenant, tout dépend comment tu es allongé sur le dos. Est-ce que tu crées pas plus de tension au niveau, par exemple, des muscles du cou? Comment est-ce que tu tiens ton ordinateur? Il y a beaucoup de paramètres que tu n'indiques pas dans ta question. À choisir, je préfère, par exemple, faire ce que pas mal d'entreprises américaines ont commencé à faire, à savoir utiliser ce qu'on appelle des bureaux debout, où ils ont mis par exemple un poste d'ordinateur en position debout à hauteur de l'individu, de manière à ce qu'il puisse travailler justement debout devant son ordinateur. Donc ils ont deux postes, ou parfois c'est simplement un portable qu'ils déplacent de la position bureau à la position en fait debout, de façon encore une fois à limiter les tensions accumulées dans la position assise. Dans la position debout, on peut un petit peu osciller à droite, à gauche sur une jambe, faire des petits mouvements. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont en train d'émerger aux États-Unis, ce qui sont quand même assez avant-gardistes par rapport aux Européens. Donc moi, je suggérerais plus de faire ça, par exemple. Voilà. Parce qu'encore une fois, à moins que tu sois complètement allongé, que ton ordinateur portable soit suspendu dans les airs, je vois pas très bien comment tu ne peux pas mettre d'autres tensions en fait. Ça veut pas dire que la position que tu prends allongée elle est pas bonne. Ça veut juste dire que, en voulant partir d'un bon sens, tu vas créer d'autres problématiques à moyen ou long terme. Voilà.
Donc là, j'ai une super question encore de Nico JDB. Oui. Concernant la manœuvre de Valsalva.
Oui.
Lorsque l'on fait les abdos, correction posturale ou de mouvement de muscu.
Oui.
L'intention doit être de contracter le plancher pelvien et de s'auto-grandir.
Oui.
Sur les mouvements lourds, comme le squat et le soulevé de terre, cette posture m'a souvent dérouté et je me sens beaucoup plus fort et à l'aise lorsque je fais la fameuse inspiration abdominale forcée. Oui. Avec pour intention de gonfler le ventre et de pousser dans le nombril.
Oui.
Cette intention est-elle bonne selon toi, Christophe?
Non. non, pour la bonne et simple raison que, en fait, la manœuvre de Valsalva, elle est basée sur un mécanisme qui est le suivant. En fait, lorsque je pousse en fait de l'air en fait dans ma paroi abdominale et que je la gonfle, je mets en tension en fait tous les fascias de la paroi abdominale, à savoir le grand droit, les obliques, donc petit et grand oblique, le transverse, etc. Le problème, c'est que je crée une hyperpression qui est dirigée vers l'extérieur et qui favorise en fait paradoxalement une poussée en fait des organes, notamment vers le bas du corps. Donc peut-être que c'est la manœuvre en fait que on cherche à avoir et que beaucoup utilisent avec la ceinture de force, c'est-à-dire où ils compriment volontairement leurs viscères. On voit les gars qui serrent très fort la ceinture et ensuite on voit le bide qui sort limite d'exploser sur les rebords de la ceinture, quoi. Donc c'est une stratégie mécanique qui fonctionne, qui est avérée, puisqu'il y a quand même des mecs qui soulèvent des charges que je soulèverai jamais dans toute ma vie sans ceinture, par exemple, ou même avec ceinture. Mais à long terme, c'est pas une bonne stratégie. Encore une fois, parce que on détériore en fait on apprend au corps à forcer, mais pas de la bonne manière, en fait.
C'est vite fait d'avoir une hernie, c'est pareil. Donc dans la team, il y a Gilles de la team, oui. Super Power, justement, qui met des charges super lourdes et compagnie, et donc qui justement a eu une hernie inguinale, voilà. Ouais. Donc il a dû se faire opérer. Il avait mal au dos depuis plusieurs mois. Il savait pas ce que c'était.
Ouais.
Ah, je vois, il est obligé de s'arrêter. Il disait, mais je comprends pas et tout. Et d'un coup, bah, c'est sorti, quoi.
Donc, ce qu'il faut se rappeler avec l'hernie inguinale, et notamment avec le terme, la question là, c'est que quand vous poussez, en fait, dans votre ventre, pour gonfler le ventre, pour obtenir plus de force sur du squat ou le soulevé de terre, en fait, vous créez cette hyperpression, justement, pour mettre en tension les fascias de la paroi abdominale. Mais également, vous poussez, comme je l'ai dit, les organes vers le bas. Et il y a une zone, en fait, de faiblesse au niveau du pubis, c'est-à-dire sur le côté, en fait, le côté de l'aine, juste au-dessus, en fait, de la naissance du sexe, chez l'homme et chez la femme, où vous avez, en fait, une paroi et des fascias qui sont très, très fins. Et donc, très souvent, en fait, c'est à cet endroit-là que les fascias se déchirent, la membrane, en fait, musculaire se déchire. Et vous avez, littéralement, ben, un morceau de l'intestin qui sort par là, quoi. Donc, généralement, il y a des gens, notamment les gens qui forcent beaucoup, ils peuvent se déchirer la paroi abdominale et ne pas avoir l'hernie pendant quelques temps. Mais plus on va forcer, plus on va développer en fait ce système où je pousse mes viscères vers le bas, et plus en fait je vais avoir l'hernie qui va sortir jusqu'au jour où elle sort littéralement de la gaine. Et là, vous voyez, ben, chez les hommes, une troisième couille, quoi.
donc, c'est l'opération, 2 mois d'arrêt.
Il y a certains qui arrivent à échapper à l'opération, notamment en faisant des exercices où on travaille beaucoup le transverse, c'est-à-dire au contraire, on cherche à aspirer les viscères vers l'intérieur et vers le haut. Donc ça, c'est une première stratégie, mais là, il faut arrêter la muscu. Enfin, c'est de toutes les manières contraignant. Et puis, effectivement, après, il y a la pose d'un filet particulier dans le bas-ventre qui permet justement d'éviter les systèmes d'éventration. Mais il faut savoir aussi que le filet, il ne résiste qu'à l'endroit où il est posé.
Ça peut ressortir ailleurs.
Absolument. Donc, si vous continuez à utiliser la même stratégie, en fait, vous allez avoir, par exemple, un bas-ventre qui va être extrêmement solide, mais vous pouvez avoir des hernies de la paroi abdominale, carrément. C'est-à-dire un morceau d'intestin qui va sortir plouf au milieu du ventre, au-dessus du nombril. Bon. Voilà, donc encore une fois, ben Nico, oui, peut-être que tu as plus de force avec cette manœuvre de Valsava, mais c'est pas la meilleure technique qui existe. Et ça nous ramène, tu sais, Rudy, à une question fondamentale. Même si je comprends que certaines personnes adorent soulever des charges lourdes pour la compétition que ça occasionne avec elles-mêmes, etc., et la gratification que ça peut leur apporter, est-ce que c'est fondamentalement sain pour le corps de soulever, je ne sais pas combien les gars ils arrivent à soulever 400, 500 kilos maintenant? Voilà.
Non, mais moi je sais que j'ai toujours été toujours eu le contrôle en fait de mon ventre, justement de rentrer, de tout serrer pour pas pousser dessus en fait. Je pense que c'est une habitude à prendre.
Oui, tout à fait.
Ben, moi qu'on soit beaucoup moins fort en faisant ça quoi. Parce que pour moi maintenant en fait c'est une habitude de serrer.
Ouais.
Et de pas pousser. J'ai pas l'impression que ce soit un handicap.
Je suis comme toi, Rudy. Moi, j'étais exactement comme Nico il y a une quinzaine d'années en arrière. Moi, je suis de posture 1, c'est-à-dire très cambré, le ventre qui a une tendance naturelle à sortir. Donc, pour moi, cette fameuse manœuvre, c'était une solution qui était assez logique pour moi, au niveau stratégique que j'utilisais inconsciemment. J'ai moi-même eu une hernie inguinale. J'en parle dans Sculptez vos abdos. Et en fait, c'est en m'auto-rééduquant avec les exercices qu'il y a dans Sculpter vos abdos que ben j'ai développé une autre stratégie en fait de stabilisation en retravaillant justement mieux cette stabilisation et cette musculature profonde. Donc et aujourd'hui, je suis capable de faire des drapeaux en aspirant le nombril et des choses comme ça quoi. Voilà.
Alors, on arrive maintenant à ma question.
La question
des périostites.
Allez, vas-y.
Alors, donc je la redis. Donc j'ai 2 périostites, donc une de chaque côté.
Oui.
Donc j'ai tout testé pour sa part. Donc j'ai regardé tes 3 vidéos que tu avais fait à l'époque sur YouTube, je sais plus pour quelle, je crois sur Oasic.
Ouais.
Donc j'ai testé la glace, donc j'ai des semelles aussi, le cryomassage, le massage avec la balle de tennis.
Ouais.
Donc le repos complet, la reprise douce, mais ça marche pas.
D'accord.
Dès que je reprends un petit peu, au bout de 3 séances, bon bah là c'est comme si j'avais jamais fait tout ce repos, jamais fait tout ça en fait.
D'accord. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, je dis, c'est que une périostite, c'est donc un décollement de la membrane qui colle en fait certains muscles, certains tissus, notamment directement sur l'os. Donc c'est vraiment une zone de transition entre l'os, les fascias ou le tendon. À partir du moment où elle se décolle, certains auteurs parlent carrément d'une sorte de micro-fracture à cet endroit-là. Donc, quand on a une fracture du bras, on sait très bien qu'il faut environ 6 semaines, 8 semaines, voire un petit peu plus en fonction de la gravité de la fracture. Avec une périostite, c'est pareil. Ça peut mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois à se réparer. Donc, ça, c'est le premier facteur. Donc, le deuxième facteur, chez toi, c'est que tu es un poids lourd. Ça veut dire que t'es assez volumineux. Donc forcément, tes deux périostes au niveau des tibias, ils supportent un poids déjà fort important au quotidien. Mais au-delà de ça, dès que tu vas mettre ton corps en mouvement et que tu vas en plus faire des mouvements de pliométrie, tu vas devoir, par exemple, accélérer ton corps de façon très très importante. Et si t'as pas des périostes qui sont parfaitement collés au niveau du tibia, c'est normal en fait que ça reste enflammé. Donc moi, mon conseil, Rudy, ça serait d'éviter tout ce qui est course à pied pendant un certain temps. Deux, de faire par exemple un travail de pliométrie, mais sur des surfaces extrêmement molles, de manière, alors ce sera pas vraiment de la pliométrie, vu qu'il n'y aura pas trop de rebonds, vu que tu seras sur une surface qui sera molle, l'onde de choc sera vachement dissipée, mais du coup tu vas développer en fait une musculature un peu, tu vas travailler cette musculature de manière moins agressive, donc tirer moins sur tes périostes. Au niveau de ton travail cardiovasculaire, si tu en fais, moi je te conseillerais de remplacer par du rope training ou alors du vélo, par exemple. Vélo ergométrique, etc. Mais il faut vraiment garder en tête que pendant... Moi j'ai eu des périostites, par exemple, pendant des années, surtout les premières années où je faisais beaucoup de sauts pour le karaté artistique. Et je sais que j'ai une périostite, j'ai mis quasiment 8 mois pour m'en débarrasser. Et aujourd'hui encore, si par exemple j'augmente trop brutalement mon volume lorsque je vais courir ou lorsque je fais du fractionné, très rapidement, j'ai des petites douleurs d'ordre liées à des périostites qui refont surface. Donc il y a vraiment un bon dosage et vraiment rester à l'écoute de son corps. Dès qu'on sent en fait une petite douleur qui s'installe au niveau du tibia, faut pas vérifier si elle disparaît au fil de la séance. Faut s'arrêter. Non, parce que je sais que tout le monde fait comme ça.
Ah ouais, moi aussi, des fois, surtout j'ai tout un peu ce qu'il y avait sur les périostites, il suffit que t'appuies un peu dessus fort pendant la séance, puis hop, tu sens presque plus rien.
Ouais.
Puis le lendemain, tu te dis ouh.
Et ouais, mais le problème c'est que le lendemain tu peux pas marcher, donc. Donc voilà, il n'y a pas 36 000. Disons que la périostite, faut vraiment garder en tête qu'on est dans le même mécanisme qu'une fracture en fait. Donc il te viendrait pas à l'idée en fait d'aller faire de la pliométrie si tu avais le tibia qui était fracturé.
Ouais, donc il faut un peu plus de repos là actuellement, vu que ça fait un petit mois là.
Ben voilà, il faut que encore tu acceptes et surtout quand tu reprends, vraiment reprendre. Pieds nus sur des tapis très très mous pour vraiment travailler les mécanismes d'absorption, etc. Voire éventuellement travailler pieds nus sur un sol dur en deuxième progression pour vraiment apprendre à développer, à ne pas atterrir sur le talon, mais vraiment apprendre à atterrir sur le bol du pied pour encore une fois développer cette stratégie d'amorti au niveau de l'onde de choc. Et puis voilà, continuer à glacer, continuer à pratiquer des automassages du muscle solaire et du jambier antérieur, de manière vraiment à garder la zone détendue, relâchée, et puis prendre son mal en patience, et entretenir, s'entretenir, c'est-à-dire continuer à faire du vélo, de la muscu, mais pas des trucs qui provoquent en fait la douleur.
Oh, la douleur, quoi, comme d'habitude.
Voilà.
Donc, alors, une autre question. Qui est, alors, Waterflow, la cale lombaire qui congestionne. Alors, sa question. Ayant un défaut postural 4 et 5, j'ai remarqué que j'ai un lombaire plus sollicité que l'autre dans mes activités quotidiennes. Mm-hmm. Quels sont les exercices pour activer la bonne, je crois pas que ça existe, recrutation.
Le bon recrutement, ouais.
Voilà. Des lombaires dans la vie de tous les jours.
Alors, déjà, là, tu me parles d'un problème isolé, alors que le travail postural, c'est un travail qui est global. C'est pas parce que tu sens uniquement tes lombaires plus d'un côté que de l'autre qu'il faut, encore une fois, se focaliser, par exemple, sur cette zone-là. Et ne pas oublier que le travail de correction posturale, ça doit être un travail global, pas un travail isolé. Sinon, si tu travailles de manière isolée, ben, tu vas développer justement une musculature très spécifique à cet endroit-là, mais tu vas pas changer la manière, les raisons pour lesquelles en fait tu as toujours ce problème de congestion à droite ou à gauche, etc. Donc toujours garder en tête qu'il faut travailler sur le mouvement et corriger sa posture de manière globale et pas isolée. Premier point. Si tu as un corps sans douleur, je te suggère d'effectuer l'exercice 5 de la posture 4. Alors, tu peux le faire soit en position allongée sur le dos, soit éventuellement, tu peux le faire debout directement. Tu reproduis le même mouvement, mais debout. Et ça va te permettre de vraiment développer un peu plus d'endurance et au niveau du schéma postural qui te pose problème et du mouvement qui te pose problème, et je l'espère, éviter que voilà qu'il y ait ces problèmes au quotidien. Donc, exercice 5, posture 4, à faire assez régulièrement debout dans la journée. Voilà.
Donc, la prochaine question, je vais y répondre, parce que tu vas pas pouvoir donner une réponse facilement, donc je dirai la question. Ma femme se plaint du dos depuis de nombreuses années, et cela l'handicape terriblement. Le diagnostic est un pincement des disques vertébraux lombaires et un début d'arthrose. Peut-elle faire un footing? Quel étirement et exercice serait utile? Enfin, je possède un corps sans douleur, mais elle est tellement tordue que je n'arrive pas à déterminer son profil type. Donc, réponse. Mettre une photo de sa femme pour voir la posture qu'elle a, et faire les exercices, dans un premier temps, destinés à sa posture.
Ben, oui, voilà, c'est... Donc déjà, il ne faut pas qu'elle fasse de footing, hein. Si elle a mal au dos... ça va aggraver les problèmes de dos. Ensuite, s'il veut qu'on l'aide, même si elle est très tordue, à trouver la bonne posture, ben il faut que soit elle poste en étant le visage flouté, 4 photos en pied, des pieds jusqu'à la tête, de face, des deux profils et de dos. Et si vraiment ils sont trop pudiques pour mettre ça sur un forum, ils peuvent envoyer ça par mail, voilà.
Comme ça, oui. Au moins, elle saura quoi faire, parce que là, c'est vrai que la question est tellement floue que...
Ouais, mais surtout pas de course à pied, surtout si elle a mal au dos et qu'elle a un début d'arthrose. Faut d'abord limiter l'inflammation, reprogrammer un peu le corps à fonctionner de manière optimale, et ensuite seulement envisager des mouvements un peu plus complexes comme la course et surtout qui génèrent une onde de choc, quoi. Donc ça veut pas dire qu'elle pourra plus en faire. Ça veut surtout dire qu'elle doit d'abord passer par la case départ. Voilà.
Alors, une petite question de Fabrice. On voit qu'il lit beaucoup la partie anatomie du site. J'ai inclus des sauts depuis support.
Oui.
Donc, l'exercice numéro 135 de ton livre Échauffement, gainage et pliométrie pour tous.
Oui.
De 60 cm de haut. Oui. J'ai beau gainer du mieux que je peux, je trouve que ça réduit le dos incroyable, encore pire que le squat. Mmh. J'ai le bas du dos raide de chez raide les jours qui suivent. Je suis obligé de faire la décoaptation de la hanche et des tonnes d'étirements à chaque fois, et encore. Je me dis plutôt que faire de la plio tout seul dans mon coin est risqué de mal faire, je devrais plutôt faire 6 x 3, 60% de squat en explosif pour rester sur quelque chose que je maîtrise et d'équivalent. Alors, qu'en penses-tu, Christophe?
Déjà que 60 cm, ça doit être trop haut pour Fabrice. Si le muscle se tend, enfin si le dos se tend, comme il le dit dans sa question, ça veut dire que il y a un mécanisme de protection. Hein, le corps se spasme, les muscles autour de la colonne se spasment parce qu'il est mal stabilisé à la réception. Donc il faut diminuer la hauteur de chute. 60 cm, ça doit être trop important. Faut pas hésiter à prendre par exemple une hauteur de chute de 20 cm. Garder son ego dans le vestiaire hein, avant l'entraînement, c'est ce que j'ai toujours conseillé. Voilà, et puis il voit, 20 cm ça passe, ça me fait pas mal au dos, ok, ben, je passe à 25 cm ou à 30 cm, voilà. Ah, 40 cm ça me fait mal au dos, donc c'est trop haut, je redescends à 30 cm. Voilà, donc ça c'est la première des choses, et la deuxième des choses, c'est bien travailler au niveau de la mécanique d'atterrissage, d'absorption en fait de l'onde de choc. Donc bien poser le bol du pied en premier, puis le talon, puis s'asseoir vers l'arrière pour bien disperser l'énergie au niveau des genoux et des hanches, aspirer le nombril de manière à co-contracter les abdominaux et l'ensemble de la sangle abdominale. Voilà, et puis ensuite régénérer de la force et de la puissance avec les hanches et les cuisses et les mollets pour éventuellement redécoller derrière si c'est un compteur, enfin un death jump comme on appelle en pliométrie. Mais bon voilà, donc dans l'ordre, diminuer la hauteur de chute, ensuite retravailler la mécanique d'atterrissage. Et à mon sens, c'est moins dangereux de travailler en poids de corps avec de la plio que travailler de façon explosive, par exemple avec une charge sur les épaules. Voilà.
Il y a ça aussi, j'avais remarqué quand je faisais de la pliométrie, en fait, mon dos se raidissait parce que j'avais le droit antérieur, en fait, qui se raidissait mais qui était courbaturé comme un malade, en fait. Et j'avais remarqué, donc il fallait que vraiment que je le masse fort, ouais. Puis que je tire après, et en fait, ça allait tout de suite mieux, le dos.
Ah, ben voilà, c'est des petits trucs...
Ouais, moi, ça me faisait ça, en fait. Dès que je faisais de la plio ou que je faisais des sprints, alors le droit antérieur, le lendemain, raide.
D'accord.
J'avais remarqué ça aussi. En fait, de monter les genoux, tu vois, ça me... Comme j'ai pas l'habitude... Ça me faisait ça, donc peut-être que ça peut être une autre piste pour le petit Fabrice. Je reprends le ton du podcast. Donc encore une autre question de Fabrice sur les flexions latérales avec haltères.
Oui.
Donc, Christophe préfère le gainage pour la partie abdominale, donc je suppose qu'il ne sera pas fan de cet exercice. Pourtant apprécié en préparation physique. Point d'interrogation.
Mmh. Moi, quand on fait les abdos debout, ça me pose pas de problème. Lorsque je suis debout, je fais une flexion latérale avec une haltère, je suis dans un fonctionnement normal en fait de la sangle abdominale. La colonne vertébrale, elle est faite pour se fléchir latéralement. C'est pas le, y a pas de problème. Le tout, c'est de pas rentrer dans des excès de flexion latérale. Mais c'est un très bon mouvement, les flexions latérales avec haltère pour renforcer les obliques, le carré des lombes, etc. Donc non, Fabrice. Je suis pas opposé. Je dis simplement que, notamment avec ton raisonnement sur le gainage, que avant de vouloir mettre du mouvement en fait autour de la colonne, il faut d'abord savoir le prévenir, c'est-à-dire éviter à la colonne de bouger dans des amplitudes que la musculature ne peut pas contrôler, et que forcément, dans ces amplitudes extrêmes, on va rencontrer des problèmes particulier au niveau des disques, au niveau des ligaments. C'est ça le gros problème en fait de la pratique dynamique des abdominaux. Et c'est pour ça que il vaut mieux privilégier un travail de gainage statique, puis ensuite un travail de gainage debout, toujours en statique, puis ensuite un travail de gainage plus dynamique dans lequel, lorsqu'on maîtrise en fait cette logique de mouvement et de posture correcte, on va pouvoir générer en plus un mouvement plus dynamique, mais tout en étant bien gainé autour du bassin et de la colonne, etc. Donc les flexions latérales avec haltères, pas de problème.
Enfin, dernière question sur la musculation du cou.
Oui.
C'est Yann qui dit, je voudrais savoir ce que Christophe recommanderait pour muscler le cou dans une optique sport de combat. Que penses-tu des flexions avec élastique autour de la tête, moins dangereux qu'avec un poids, meilleur uniquement en statique?
On vient d'y répondre en fait. Je commence d'abord en statique, dans Sculpter vos abdos, on a quelques fiches qui en parlent, et ensuite je peux éventuellement y mettre une composante dynamique avec élastique. de préférence debout, pas en position allongée, surtout pour les sports de combat, puisqu'encore une fois, le renforcement musculaire, il doit être spécifique. Et généralement, ben, on a besoin, dans les sports de combat, d'un coup solide, notamment pour éviter les chaos, c'est-à-dire que le crâne vibre trop lors des chocs à la tête, les coups de pied, les coups de poing, les coups de coude, etc. Si par exemple tu fais du MMA et que tu te retrouves dans des positions où tu dois où ton adversaire saisit ta tête en position allongée, etc. Là, tu peux faire un renforcement spécifique. Mais de manière logique, si c'est pour lutter contre les problèmes de chaos liés à des impacts, il vaut mieux travailler debout avec un élastique, d'abord contre résistance statique et ensuite de manière un peu plus dynamique. Voilà.
Donc c'était la dernière question. Donc finalement, on a tenu quand même une heure.
Je parle beaucoup, hein.
Donc tu vois, Christophe, il y avait pas mal de questions. Parce que Christophe était déçu qu'il n'y ait pas beaucoup de questions. Je savais qu'il y en allait avoir pour une heure.
Ouais, mais c'est que je parle trop à chaque fois.
Non, mais c'est ce qu'il faut parce que les questions à chaque fois sont très intéressantes et il y a de quoi répondre quand même.
Bon, c'est cool, c'est cool.
Donc, un merci à toi déjà pour toutes ces réponses pour ce cinquième podcast sur Super Physique.
Et puis, ben, merci à tous ceux qui les ont posées. J'espère qu'on y a répondu de manière assez claire, même si parfois c'est un peu compliqué sur des questions qui sont compliquées. Voilà.
Donc on se retrouve au mois de février pour ton prochain podcast.
Voilà, et puis courant février, j'espère pouvoir produire des nouveaux articles pour Super Physique.
Voilà. Bon bah merci Christophe et à bientôt sur le site et sur christophecario.com.
Eh bien merci Rudy et puis bonne lecture et bonne écoute du podcast sur superphysique.com.
Salut.
Salut.